France Culture.
Question d'islam par Al Bensir. Aujourd'hui, nous parlons de foi, de chemin de foi, d'expérience spirituelle. La foi, étymologiquement, vient de fides, qui renvoie à la fidélité, à la confiance. En langue arabe, ça renvoie aussi à l'iman. Emouna, en hébreu, tout cela a un champ sémantique autour de la fidélité, de la sécurité, de la sûreté, de pouvoir restituer les dépôts quand on est dépositaire de quelque chose ou de quelque secret aussi. Et j'ai grand plaisir à recevoir, pour parler de la foi, de recevoir Sundus Mustarhim. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un personnage très riche, si tant est qu'il me soit permis de commencer comme ça. Vous êtes à la fois analyste financière, même à un très haut degré. Vous êtes aussi romancière, auteur ou autrice, auteureux, puisqu'on féminise désormais. Vous êtes artiste, artiste chanteuse, slameuse, comme on dit maintenant. Je crois même qu'on dit influenceuse, puisque vous êtes créatrice de contenu. Et vous voulez témoigner de votre chemin de foi. Alors, d'abord, je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Vous êtes venu spécialement de Bruxelles. Et donc, dans ce studio, nous aurons à avoir cet entretien ensemble, puisqu'il s'agit d'emblée de vous mettre sur un plan testimonial. C'est le témoin qui parle. Comment étiez-vous amené à vouloir témoigner de votre foi, alors que cela relève de l'intime ? Et vous avez senti ce besoin de vouloir en parler ?
Ben, tout d'abord, je pense que la foi est composée de deux volets pour moi. Enfin, c'est en tout cas ce que je conclus dans ce cheminement spirituel où j'en suis maintenant. Et j'en suis encore qu'au début, je l'espère. Pour moi, il y a la partie effectivement de l'intime, ce qu'on appelle la fitra, hein, c'est-à-dire cette foi avec laquelle on est né, que chaque être humain a en lui depuis sa naissance.
Nos amis auditeurs ne connaissent pas tous qu'est-ce que c'est que la fitra, mais si vous pouviez leur expliquer davantage.
C'est difficile, comme généralement j'utilise pas de mots arabes, mais parfois la traduction est tellement difficile, mais c'est la nature
primordiale,
voilà.
Un mot quasi intraduisible, c'est la nature primordiale, la prime nature selon laquelle les êtres humains sont nés.
Exactement, et c'est ce souffle en fait, ce souffle à la naissance, avant même d'ailleurs. Mais j'ai toujours vécu, je pense, ma foi de cette manière-là, de l'ordre de l'intime. J'ai été éduquée avec une sorte de pudeur aussi, autour de la foi, mais dans mon cheminement professionnel, hein, comme vous l'avez dit, j'étais dans la finance, et donc là, c'était 100% de l'ordre de l'intimité de ma pratique religieuse, mais aussi de ma foi et de ma spiritualité. Mais je suis emmenée dans ma vie à devenir créatrice de contenu, comme vous dites. C'est un métier aujourd'hui qui est très à la mode, et qui relève pour moi d'une responsabilité, parce qu'on est une image pour les gens, et je prends ce rôle très à cœur, c'est-à-dire que je fais très attention à ce que je partage avec les gens. Et durant le mois de Ramadan, j'avais pour habitude de partager le fait que je lis le Coran en entier pendant le Ramadan. C'est un partage, un don, c'est pas une exhibition de mes compétences ou de ce que je fais. C'était plutôt une sorte d'encouragement.
Comme il y a 30 jours pour une lunaison complète, vous lisez
20 pages à peu près.
Ah oui, donc le 1/30 par nuit.
Oui, c'est ça, d'accord. Exactement. À peu près 20 pages, et puis en fonction, quand on arrive dans les sourates plus courtes, on a envie de la terminer, mais c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire il y a à peu près 5 ans, et qui m'a profondément bouleversée dans mon introspection et dans ma foi. Et j'ai remarqué qu'il y avait une réaction de la part des gens. La réaction la plus troublante a été celle des femmes, qui m'ont dit qu'elle ne se sentait pas légitime d'ouvrir le Coran. Et j'ai moi-même ressenti ça un jour, malgré mon éducation, une éducation exemplaire, on va dire, par l'exemplarité. Mes parents nous ont jamais imposé les choses, mais ils nous les ont montrées et on a suivi notre propre cheminement.
Il faut dire que votre père est un théologien de renom, Saïd Mustarhim, traducteur de textes sacrés,
exactement,
y compris du Coran. Et d'ailleurs, les versets coraniques que vous avez dans vos ouvrages et dans votre ouvrage sont ceux de la traduction de votre père.
Exactement. Il y a une raison vraiment à ça. Mais voilà, j'ai commencé à partager. Et en fait, c'est la réaction des gens qui m'a confortée dans l'idée qu'il y avait un besoin de partage. Je ne suis pas, moi, par contre, théologienne. Je n'ai pas de connaissances pour parler de ce qui est religieux, parce que je pense que c'est une responsabilité aussi d'utiliser certains termes ou non. Mais par contre, la foi, c'est quelque chose qui, pour moi, peut se partager. Peu importe où on en est dans notre cheminement, le fait de le partager aux gens peut les inviter à eux-mêmes entamer leur propre chemin et leur propre cheminement spirituel. Et donc, j'ai commencé à le partager comme ça. J'avais sorti déjà mon premier livre, qui était un roman, et je suis en contact avec Jérôme Oliveira, qui est éditeur aux éditions J'ai lu, et qui me propose, à ce moment-là, d'écrire un livre sur ma foi, parce qu'il voit justement que je partage publiquement, de manière très intime encore.
Subreptice.
Je pense qu'on a peur un peu. Je pense que l'homme est fait pour vivre en société. On a ce besoin de validation et d'acceptation, même si on a beau dire que ce n'est pas le cas, c'est le cas. Et c'est toujours très effrayant de partager des notions religieuses. Parce que même si c'est spirituel, indirectement, c'est religieux parce que je suis musulmane. Pour deux raisons. Je pense que quand on est musulman européen, on a vraiment deux volets. C'est l'identité d'abord. On est trop ici pour certains et pas assez là-bas pour d'autres. Et puis on a le volet religieux. Et là encore, pour moi, il y a deux parties. Il y a les personnes qui jugent de notre religion, de notre communauté, qui estiment qu'on n'est pas suffisant pour pouvoir s'exprimer sur le sujet. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens de se rapprocher de la religion, à mon sens. Et puis il y a le racisme, l'islamophobie qui est très présente, surtout actuellement. Et ces deux groupes, qui ne représentent pas la moyenne, sont finalement les personnes qui s'expriment le plus dans les médias ou publiquement. Mais dans la tête des gens, ça représente du coup la norme.
Avec cette idée que l'histoire est faite par les minorités activistes.
Bien évidemment.
Sundus Mustarhim, vous m'aviez dit tout à fait au début de notre entretien qu'en ce qui concerne la foi, il y a deux volets. Il y a ce qui relève de l'intime. J'attends le second volet. Ça relève plutôt du partage, si j'ai bien compris. Et donc, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'exprimer en société. Que dites-vous à ces jeunes femmes qui vous disent qu'elles ne se sentent pas légitimes d'aller étudier, lire le Coran, de le méditer? Les mystiques disent « ils s'y noient dans le flot des versets coraniques ».
Je comprends cette notion de se noyer dans les flots, parce que chaque fois que je lis le Coran chaque année, j'ai l'impression de lire un autre Coran en fonction de ce que j'ai vécu pendant l'année. Et je pense que ça, c'est la plus grande magie du Coran. C'est que forcément, notre cœur nous arrête sur un verset plus particulièrement. Alors, j'ai une lecture qui n'est pas avec objectif de juste terminer le Coran en un mois. C'est pas un marathon. C'est de m'arrêter sur des versets qui m'interpellent et d'essayer de faire des recherches et de comprendre. J'ai eu la chance de faire des cours d'arabe quand j'étais jeune et de lire l'arabe. Mais de ne pas avoir un arabe suffisamment riche que pour le comprendre. Le Coran, voilà, c'est une langue très, très, très riche. Donc, j'essaye aussi de parfaire mon arabe chaque année. Mais dans la foi, quand je parle de ce deuxième volet, pour moi, c'est une notion dans le Coran qui revient tout le temps. Amenu wa amilu salihat. C'est-à-dire, c'est la foi, elle est toujours accompagnée de l'action.
De l'action, pardon, dans les œuvres pies.
Dans les bienfaits, parce que c'est vrai que les actions ne sont pas toujours...
Et vous avez tout à fait raison, si tant est qu'il me soit permis de cautionner ou pas vous dites, mais il est clair qu'on ne peut pas prétendre être homme ou femme de foi si on ne le traduit pas par des actes concrets dans les œuvres pies ou dans les bonnes actions. C'est vrai.
Oui, avec cette notion d'intention pour moi.
Bien
l'intention,
sûr.
C'est quelque chose qui m'a permis de me sentir légitime, d'ouvrir le Coran, de prier, de me sentir musulmane. Et c'est triste de le dire parce que mes parents m'ont transmis l'islam qui est amour. Mais malheureusement, on n'est pas éduqué que par nos parents. On est aussi éduqué par l'entourage, la scolarité, nos ambitions, l'acquisition de matériel, la dounia, hein, comme on dit.
Le monde d'ici bas.
Voilà, le monde d'ici bas. Et j'ai perdu cette légitimité de me rapprocher de ma spiritualité, de ma foi en fait. Après la foi, je le dis dans le livre, pour moi c'est quelque chose qui vacille. Je l'ai encore plus constaté cette année en faisant la Umra, le pèlerinage.
Petit.
Le petit pèlerinage.
Pas le grand pèlerinage.
Exactement.
Mais bon.
De me rendre compte que, en étant là-bas, ça a été mon plus haut degré de foi et ça m'a permis de me sentir en paix et de me dire c'est normal en fait. Parce que les actes nous permettent d'approfondir notre foi. On ne peut pas, pour moi, séparer complètement le fait d'avoir la foi et la pratique. Parce que la pratique entretient la foi et la foi entretient la pratique. C'est ce qui nous permet de nous rapprocher aussi de notre foi et de cheminer. C'est comme un guide un peu pour moi, la pratique. Donc je ne sépare pas les deux parce que c'est vrai qu'on peut... Le titre du livre, c'est « Mon chemin de foi ». On peut avoir l'impression que je mets la religion de côté pour rester dans un très, très général. Mais ce n'est pas mon objectif. C'est simplement que pour moi, la religion m'accompagne dans mon chemin. Mais la foi reste cet amour, cette intention et va de pair avec le fait d'agir dans le bien. Et pour moi, le fait de partager ma foi, c'est une sorte... C'est un peu hautain ce que je vais dire. Ce n'est pas le but, mais c'est une sorte de partage, en fait, de don. Ça m'a beaucoup touchée d'écouter votre émission avec l'imam de Bordeaux qui parlait justement du don. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. C'est qu'un jour, j'ai pris conscience que Dieu, il nous a tous donné des talents et que c'est en fait un devoir d'utiliser ces talents au service de la société.
Parce qu'on aura à en rendre compte un jour, en tout cas je le dis pour ceux qui croient, ceux qui ont la foi tout comme vous. Que diriez-vous, cher Sundus Mustahim, à ceux qui disent « mais en réalité, les questions de foi, dès lors que ça relève de l'intime, c'est plutôt une expérience personnelle, pourquoi alors cette mise à nu de l'âme, cette mise à nu spirituelle ?» Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'en rendre compte? Vous avez dit que c'est un partage. D'autres diront, oui, la foi se propose, mais ne s'impose jamais, heureusement. D'aucuns iront jusqu'à dire, il n'y a même pas à proposer quoi que ce soit, il y a simplement à vivre conformément à la foi. Et on dit que si j'agis bien, c'est parce que je suis une femme ou un homme de foi. Si j'agis autrement, c'est parce qu'il y a une certaine métaphysique qui m'autorise ou qui me dicte d'agir de la sorte.
Je pense que le fait d'avoir voulu partager ma foi, je l'ai fait... Alors, c'est pas sexiste ce que je vais dire,
mais
je l'ai fait vraiment avant tout pour les femmes. En deuxième lieu... pour les musulmans qui ont l'impression de ne pas être représentés.
D'accord.
À nouveau, c'est un livre de témoignage. Je témoigne de mon cheminement. Et j'ai bien mis le mot « chemin » dans mon livre pour souligner le fait que je n'ai pas de connaissance absolue. C'est un chemin jusqu'à la mort. Je continue chaque jour d'essayer de m'améliorer, d'apprendre. J'ai encore énormément à apprendre et heureusement d'ailleurs.
Quand vous êtes jeune, les questions de mort, on les laissera
on
bien
les laisse,
plus
j'espère,
tard. Hein.
J'espère. Et je vais vous partager une anecdote qui est venue renforcer encore plus ce sentiment. C'est qu'en partageant mon petit pèlerinage, j'ai plusieurs femmes, je dis plusieurs, trois précisément, parce que plusieurs, ça peut paraître prétentieux.
Chez les puristes de la langue française, oui. Si on est à trois, elles sont
j'ai
quelques,
le droit,
mais elles deviendront
voilà, quelques,
plusieurs.
J'ai quelques. Oui. J'ai trois femmes précisément, dont une personnalité publique, qui ont osé faire le pèlerinage. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Je ressens beaucoup d'émotions quand je partage ça, parce que ça ne sont pas des personnes que je connais personnellement, mais qui ont vu mon voyage parce que je l'ai partagé. C'était une grande responsabilité de le faire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le don avec un intérêt derrière. Il y a deux sortes de dons, en fait. Il y a le don où on attend un retour, et puis il y a le don...
Auquel cas, ce n'est plus un don.
Ce n'est plus un don, exactement. Exactement. Et puis, il y a le don sincère, qui est de déposer quelque chose et de ne pas attendre de retour. En l'occurrence, là, j'ai eu un retour émotionnel qui m'a fait énormément plaisir, mais... Je me suis dit...
D'aucuns diront...
Donc cela, ce n'est plus un don.
C'est que le plaisir pour le don, le retour émotionnel est une forme de contre-don, mais c'est très bien, on ne va pas pilailler
là-dessus.
Voilà,
mais au moment, en tout cas, où je le fais, il n'y avait pas d'attente de retour. Ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, je connais mon intention au moment de partager mon pèlerinage. Ce n'est pas pour exhiber le fait que j'ai accompli... ce voyage, j'ai essayé de trouver les bons mots dans mes textes parce que je partage toujours mes aventures à travers des textes. Et cette personnalité publique m'a dit, j'étais dans un moment difficile de ma vie, j'ai regardé ta vidéo, écouté tes textes en boucle et j'ai pleuré et j'ai pris mon billet d'avion sur un coup de tête et je suis partie faire la Umrah. Et elle m'a partagé son... Ça m'émeut encore maintenant quand j'en parle. Elle m'a partagé son voyage et je me suis dit... C'est ça mon objectif.
Bien.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe.
Alors encore une fois, pour nos amis auditeurs, la Umrah, c'est le petit pèlerinage, sous-entendu que ça peut se passer en dehors du temps du pèlerinage, le grand, celui qui est prescrit selon les cinq piliers de la pratique culturelle islamique, quoique le cinquième pilier n'est pas une obligation absolue, c'est assujetti à la validité physique et à l'aisance matérielle, comme on dit. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, c'est un entretien ouvert avec Sundus Mustalhim. J'ai grand plaisir justement à avoir cet entretien avec vous. Vous êtes une analyste financière bien ancrée dans les connaissances des biens de ce monde. D'aucuns auraient dit les vanités du siècle, mais vous êtes une bonne analyste financière à un degré très élevé. Vous êtes romancière, auteur ou autrice, vous avez écrit quelques ouvrages, bientôt ce sera en plusieurs. Vous êtes artiste, chanteuse, slameuse, créatrice de contenu, et donc vous témoignez de votre chemin de foi. La foi est une itinérance, comme disent certains. Pour d'autres, c'est même un ravissement. Alors, vous êtes ravie à vous-même ou vous êtes dans l'itinérance ?
Je pense que je suis les deux. J'espère en tout cas.
C'est un peu comme l'électron qui est à la fois, enfin en mécanique quantique, on a ce qui est ondulatoire et ce qui est particulier.
Ben justement, pour moi, c'est tout ça à la fois. Le livre s'appelle Mon chemin de foi, mais c'est pas mon chemin comme on l'entend, qui est d'un point A à un point B. Alors si on part d'un point A, on arrivera à un point B certainement. Mais il y a cette acceptation aussi que parfois on... J'aime pas dire on s'éloigne de sa foi, mais la foi baisse. Je sais pas quel mot utiliser exactement pour décrire ce sentiment d'être moins ancré dans sa foi.
Le fait de dire qu'on est sujet au doute parfois. Il y a ce fameux hadith, un aphorisme qui dit que les cœurs pourraient connaître une forme de rouille. Et c'est la remémoration, la commémoration, la prière, les appellatifs divins... qui font en sorte que on les polie en quelque sorte. Donc il y a cette expérience du doute.
Oui, enfin du doute. Je pense que on vit en société, en l'occurrence en Europe. Je peux parler que de l'Europe parce que c'est ici que je vis, mais on a une sorte de compétition entre notre vie spirituelle et notre vie sociétale, si je puis dire. Et le tout est d'essayer de trouver cet équilibre. C'est pour moi, je pense, ce que j'essaye d'incarner aujourd'hui, c'est d'essayer d'aussi bien m'accomplir et cheminer au niveau spirituel, mais aussi au niveau professionnel. Et je pense que les deux sont une forme d'accomplissement de foi, finalement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un talent et ne pas l'utiliser, pour moi, c'est comme ne pas faire don aux autres et à soi-même. En fait, c'est gâcher un talent que Dieu nous a donné. Alors après, le tout est de définir talent et puis voilà.
Et même Dieu.
Et aussi,
pour
aussi,
beaucoup,
bien sûr. Bien
surtout
sûr.
Que nous sommes dans des sociétés sécularisées et dont la majorité, à en croire les sondages successifs, n'ont pas de référent religieux ou un quelconque ancrage spirituel. Sundus Mustalhim, que diriez-vous? Comme ça, on aura soldé cette question. Ah, mais le fait de parler de sa foi, etc., n'est qu'une réactivation pour certains, ou en tout cas une réislamisation pour d'autres, une réactivation de l'appartenance confessionnelle pour des considérations identitaires dans un contexte un peu hostile, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Moi, je pense que je vais utiliser la foi dans un autre contexte, mais j'ai profondément foi en l'humain. Je pense qu'avant tout, en étant musulmane, je suis optimiste. Et c'est vrai que voilà, le monde actuel n'est pas à l'image de ce qu'on aimerait qu'il soit.
Un monde brutalisé et des peuples martyrisés.
Exactement, et puis des conflits au sein de nos propres communautés, de nos propres familles. Mais je continue à avoir foi en l'humain, parce que je pense que l'homme est né bon, et puis il agit dans le mal pour toutes sortes de raisons. Mais je pense qu'il y a toujours quand même ce retour à la bonté de l'humain. Et que ce qui nous unit, c'est l'humanité, mais c'est la foi aussi. Et qu'on mette en lien la foi avec une confession, en l'occurrence pour moi l'islam, ou un chrétien, un juif, même un athée en fait. On a tous foi en quelque chose. Ça revient à cette fitra, comme je disais tout à l'heure, donc que vous traduisez mieux que moi.
Nous l'avons déjà dit, je n'ai nulle prétention à dire que je traduis mieux que vous, mais en généralement, cette fameuse fitra, ce terme arabe, renvoie à l'idée de la nature primordiale ou la prime ouais. nature.
Donc ça renvoie justement à l'essence de l'humain, de l'être humain. Et je pense que si c'est ce qui nous anime depuis la naissance, c'est ce qui peut nous unir aujourd'hui. Et reconnaître que nous avons tous foi en quelque chose et nous unir avec nos similitudes plutôt que nous diviser par nos différences, c'est pour moi quelque chose qui continuera à perdurer dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste. Et écrire un livre sur la foi fait partie de cette action. Il y a des gens qui vont faire des voyages humanitaires, il y a des gens qui vont à des manifestations où on peut faire les deux et plein d'autres actions. Ce livre, pour moi, c'est un don. Je dis toujours, j'ai écrit un livre d'ego, mon roman, parce que quand on écrit un roman, c'est de l'ego. C'est exhiber son talent d'écriture. Ici, je n'ai pas du tout vécu l'écriture de ce livre comme celui de mon roman. Pour moi, ici, c'est vraiment un don. Et la table des matières, rien que la table des matières, j'ai mis un an à l'écrire pour vraiment me poser la question, parce que l'ego reprend le dessus à chaque fois. On veut parler de ce qui nous anime. Et je me suis chaque fois posé la question avec mon éditeur, et il a été très important dans cette écriture parce que lui n'est pas musulman. Ses questions, son questionnement au sujet de l'islam m'a aidé à établir cette table de matière. De quoi est-ce que j'ai envie de parler si je veux faire don de mon cheminement spirituel et pouvoir permettre à des femmes, à des musulmans, de continuer le leur. Je ne vais pas dire d'entamer le leur, ce serait très prétentieux, mais de continuer le leur et d'oser faire certains actes religieux qui permet cette introspection, comme lire le Coran, prier, aller faire le petit pèlerinage.
Ou le grand.
Ou le grand, bien sûr.
Sundus Mustalhim, vous avez mis un an à établir le sommaire ou la table des matières. J'imagine vous vouliez, par ce temps aussi, et puis ce questionnement, ces allers-retours avec votre éditeur, il y a une volonté d'atrophier votre ego, ça j'ai pu le percevoir, mais j'y vois aussi des réponses, notamment à la lancinante question qui taraude de l'homme depuis toujours. Pourquoi naître pour mourir un jour? Pourquoi venir au monde pour souffrir et pâtir? Quelle étrange destinée que de se nourrir, croître pour dépérir. Donc, ce questionnement-là, vous avez essayé de donner des réponses. Je vois celle de transformer chaque douleur en force. Comment faites-vous pour transformer les douleurs en force?
J'ai une réponse qui paraît assez utopique, mais c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui. Bien sûr, je parle après les épreuves, pas au cœur de la tempête, mais j'ai vraiment vécu derrière chaque épreuve quelque chose de merveilleux. Et je pense que le regard qu'on porte sur une épreuve est très important. C'est quelque chose qui peut changer notre perception. On peut vivre une situation de plein de manières différentes. Une épreuve, alors bien sûr, elle est difficile. Au cœur de la tempête, comme je le dis, c'est très difficile de prendre du recul. D'ailleurs, le mot recul, justement, signifie d'être soit avant, soit après l'épreuve. Mais c'est important de s'arrêter par moment et d'analyser des choses qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est ce que j'ai fait à un moment de ma vie. Parce que, bon, en travaillant dans la finance, on ne s'arrête jamais. Mais à ce moment-là de ma vie, je me suis arrêtée pour me questionner sur certains nombres de choses que j'ai vécues. Et je me suis posé la question suivante: si je n'avais pas vécu ces choses-là, quelle serait ma vie aujourd'hui? Il n'y a pas une épreuve que j'aurais voulu retirer de mon parcours de vie, parce qu'il y a toujours quelque chose de bénéfique qui reste. L'épreuve ne reste pas, mais le khair, comme on dit, qui en est ressorti.
Le bien qui en est ressorti.
Le bien, voilà, qui en est ressorti, et continue. Je peux donner un exemple humain.
Je vous en prie, oui.
J'ai divorcé, mais ma fille est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée. C'est un exemple très parlant, parce que parfois, il faut se dire au cœur de l'épreuve, oui, mais grâce à Dieu, c'est vrai que je vis une épreuve, mais voilà, je vis aussi de belles choses à côté.
Vous dites cela, Sundus Mustalhim, parce que vous êtes sorti vainqueur de l'épreuve en question. Mais quand on la vit elle-même, d'aucuns diront « Oui, mais c'est tellement dur qu'on pourrait abdiquer, se laisser submerger par les difficultés épineuses inhérentes à l'épreuve elle-même ». Alors, d'aucuns diront l'épreuve est toujours salvifique, les crises sont salvatrices, et qu'on peut en discourir après coup, mais durant l'épreuve, qu'est-ce qui aide à pouvoir tenir?
Alors, je pense que, justement, les conclusions d'une précédente épreuve, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on parle d'expérience de vie, hein, c'est qu'au fur et à mesure, quand aujourd'hui, je n'ai pas la même action qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, quand j'ai une épreuve, alors ça va être difficile pendant quelques jours, avant quelques mois, mais je sais déjà, j'ai un peu ce sourire de me dire qu'est-ce qui va en sortir de bénéfique. Mais il y a une deuxième chose, c'est justement les actes. Et j'en reviens à la pratique. Parce qu'on peut avoir une baisse de foi, comme j'ai dit, j'aime pas trop ce terme, mais on peut avoir un éloignement ou un ancrage moins important dans des épreuves. Parce qu'on est centré sur nous-mêmes, notre ego prend le dessus et on ne voit que le négatif. Mais, par exemple, dans mon quotidien, la prière, c'est quelque chose qui met mon cerveau en off, pause.
Vous switchez alors.
Totalement, et qui me rappelle que toute ma vie ne paraîtra que comme une heure. Hein. C'est un verset qui m'a profondément marqué, quand je l'ai lu, et de me dire, c'est quoi l'épreuve en fait? Si ma vie sera une sensation d'une heure, c'est je vis une seconde. Est-ce que c'est important de laisser tout ce qui est bien autour de moi pour cette épreuve? Et j'ai vraiment ce combat avec moi-même. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Encore aujourd'hui, j'ai plein de moments où je suis un être humain, où je faillis à ma foi. Mais la prière, c'est quelque chose qui m'ancre dans ma réalité spirituelle.
Qu'est-ce que c'est renoncer pour se libérer? Vous renoncez à quoi?
Je parle du coup de renoncer à se libérer en parlant du mois de Ramadan
pour se libérer.
Ce chapitre concerne initialement le Ramadan, le jeûne. C'est un mois pendant lequel j'ai pris conscience de ça, que parfois dire non à quelque chose, j'essaye de mettre du sens dans ma pratique. Parce que je pense que pendant toute une partie de ma vie, j'accomplissais des choses sans forcément comprendre encore pourquoi. Et c'est bien, parce qu'en même temps, ça nous permet justement de rester ancrés dans ces actes qui vont nous aider après à développer notre foi. Mais c'est important à un moment donné de se poser les questions et de comprendre pourquoi on fait les choses. Et j'ai vécu cette symbolique aussi de renoncer à manger, à boire pendant le mois du Ramadan pour me libérer, parce que c'est vraiment un mois qui est marquant dans ma vie. Je le vis comme un reset un peu de l'année. Je repars toute neuve pour ma nouvelle année. Le fait de relire le Coran, c'est un rappel et on se souvient de nouveau de notre mission sur Terre. Et en fait, je l'ai appliqué à ma vie.
Et quelle est votre mission sur Terre?
D'essayer de faire le moins de mal possible et le plus de bien, comme je l'ai dit, hein, amenu wa amilu salihat, c'est-à-dire d'essayer de développer ma foi le plus possible et de la lier à des bienfaits, des bonnes actions.
Alors, il y a, par moments, je vous interromps dans votre élan, mais c'est pour encore vous poser d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de la mort comme le grand commencement? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien entendre pour vous, qu'est-ce que c'est que ce grand commencement? D'aucuns parlent d'un grand remplacement, mais vous parlez d'un grand commencement.
J'ai été très sensible durant mon enfance. Alors, je le dis, pas à la maison, hein, parce que j'ai eu une éducation d'amour, d'un islam d'amour. J'ai été très sensible dans mon enfance à l'islam vécu autour de moi par d'autres enfants de mon âge ou après d'adolescents, qui est un islam de peur. L'enfer, le châtiment, le jour du jugement dernier. Et malgré tout cet amour transmis à la maison...
Tout cela culpabilise des consciences.
Bien sûr. Et je pense que en lisant le Coran, je me suis rendu compte que ces moments, donc le jour du jugement dernier, l'enfer, sont mis toujours accompagnés de mauvaises actions pour souligner en fait le fait d'agir bien. Mais il y a tellement de belles choses en islam. Il y a tellement de belles choses à transmettre à nos enfants, qui est d'abord l'amour, pour moi.
Vous parlez même d'un amour total.
Oui. C'est un abandon total à l'amour divin, mais c'est une manière de se sentir totalement en sécurité dans ce monde qui devient un peu fou, un peu comme un enfant. Quand je vois ma fille à un an qui n'a peur de rien parce qu'elle a un amour inconditionnel pour sa maman et qu'à ce moment-là, elle pense qu'il ne peut rien lui arriver parce que je suis là. Alors, je me mets pas dans la peau de Dieu en faisant cette métaphore. Attention, c'était vraiment pour décrire l'émotion d'amour. Mais c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est cet amour total et cette confiance totale, quoi qu'il arrive, même si ma vie sur Terre s'arrête demain, quoi qu'il arrive, peu importe l'épreuve, il y a une raison. Dieu sait ce que je ne sais pas.
Mais le commencement à quoi, oui, quand vous parlez de la mort comme le grand commencement? Alors, on commence,
donc justement,
vous commencez quoi?
Voilà, donc pour moi, la vie ici-bas n'est qu'un passage en fait.
D'accord. Et c'est un trépas, c'est une grande Pâque, c'est une aventure humaine.
Oui, exactement. Bon. Et pour moi, je ne vais pas dire la vraie vie, parce que je ne sais pas quel terme il faut utiliser, c'est après. Et le fait
enfin, celle qui est annoncée comme meilleure et durable.
Voilà, exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ici-bas et attendre, parce que c'est ce que j'ai compris dans le Coran, c'est que c'est ici et là-bas.
Conformément à ce verset qui dit « œuvre dans tout ce que t'a donné Dieu pour l'au-delà, mais n'oublie jamais ta part ici-bas, fais le bien comme Dieu t'a fait du bien ».
Il y a une invocation qui m'a beaucoup fait pleurer quand j'étais à la Umra, parce que j'ai pris conscience de ce qu'elle voulait dire. Quand on dit « Atini fi dunya wa fi akhira ».
Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?
Donc, on demande à Dieu de nous donner ici-bas.
Dans ce monde-ci et dans l'autre.
Et il y a des choses qu'on répète parce qu'on a l'habitude, et puis il y a des choses qu'on vit. Et je pense que le but d'un cheminement, c'est d'essayer de transformer au maximum ce qu'on fait en ce qu'on incarne et ce qu'on vit. Et pour ça, il faut justement aussi la pratique, la compréhension, l'étude, comprendre, et pas juste se contenter de faire. Je crois que c'est un des maux de la société actuelle, c'est bien de faire, mais c'est bien de comprendre pourquoi on fait. Parce qu'on va donner un sens différent, on va arrêter de juger l'autre. On se rend pas compte que parfois, un mot peut éloigner quelqu'un de sa foi, et ça devient un péché en fait. Alors qu'on va mettre ça sous la forme d'un rappel. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, que vraiment qui me révolte, c'est de voir sur les réseaux sociaux deux gens qui finissent par se retrouver dans le même groupe, les islamophobes et les jugeurs. Je vais les appeler comme ça.
Les fameux takfiristes, ceux qui considèrent que ceux qui sont tièdes dans leur foi, je parle parmi les musulmans ou fondamentalistes, ne seraient pas, ne sont pas dignes d'être considérés comme des musulmans parce qu'ils dérogent à leur conception de ce que c'est que d'être un bon musulman. Alors que si l'épithète « bon » était après, ça aurait été mieux. Il vaut mieux dans la vie être un musulman bon que d'être un bon musulman.
C'est totalement vrai. Et malheureusement, moi je suis profondément révoltée et ça me touche vraiment ce sujet. Parce que quelqu'un partage quelque chose de positif sans se prétendre théologien et qu'il reçoit un déferlement de haine de nos frères et sœurs, en fait, musulmans, ils n'ont pas compris alors. Pour moi, ils n'ont pas compris. Qu'ils le pensent, très sincèrement, qu'ils le pensent, c'est leur droit.
Et leur
ils ont
liberté.
Totalement le droit de le penser. Et je respecte ça. Mais de le partager en prétendant à un rappel, ça n'est pas un rappel, c'est un jugement. Et souvent, j'ai envie de leur dire, mais vous serez jugés pour ça aussi. On ne connaît pas le quotidien des gens, et parfois dire, tu n'es pas voilé, tu ne peux pas t'exprimer sur le sujet, ça peut blesser la personne, ça peut l'éloigner de sa foi, ça peut causer beaucoup de mal, en fait.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Dans la tête, et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui, avec Sundus Mustahim, nous avons cet entretien libre, totalement ouvert. Et Sundus Mustahim est analyste financière, romancière aussi, auteur ou autrice d'ouvrages. Elle est aussi artiste, chanteuse, slameuse, influenceuse. Je pourrais finir sur ce temps-là. Vous êtes créatrice de contenu, comme on dit maintenant, sur les réseaux sociaux. Certains pourraient être qualifiés de réseaux asociaux, tellement c'est le défouloir de toute l'exécration et la détestation chez certains. Mais vous, avec votre douceur, vous en parlez avec calme. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire de proposer une vision moderne et profondément humaine de la foi musulmane? Y a-t-il une vision archaïque, obscurantiste, passéiste, rétrograde, et une vision moderne de la foi?
Je pense que c'est vrai que c'est plutôt une vision de la foi et une vision de la modernité. Ce sont deux choses différentes, bien évidemment. Je reviens à ces deux volets de la foi qui sont pour moi la fitra et puis ce partage, cette vie en société. Pour moi, on ne peut pas les dissocier parce que on reste un être qui a besoin de vivre en société. On n'est pas fait pour vivre seul.
Pour vous, moderne, vous le prenez dans son sens étymologique, c'est suivre sans mode et ne pas courir après la mode. Le mode reste, la mode, par définition, est toujours supplantée par autre chose. Je m'étais promis, cher Sundus Mustalhim, de ne pas vous poser la question, mais c'est vous qui avez évoqué ça dans une de vos réponses. Pour vous, la spiritualité islamique n'est pas nécessairement médiatisée par un tissu. Donc vous n'êtes pas voilé et ce n'est pas ça le propre de la foi.
Pour moi, il fait partie du volet intime de la foi. On vient de parler des deux volets. Le volet intime, qui relève de l'intime, de la fitra. Et puis il y a le volet sociétal, on va dire, on va l'appeler comme ça. Et ça me révolte que ce soit un sujet aujourd'hui dans les médias. Moi, je ne porte pas le voile.
Y compris parmi ceux qui jugent d'une manière indue sans connaissance.
Exactement. Et qui jugent tout court, même avec les connaissances, si je peux me permettre. Alors, je me permets, moi, de le mettre dans le volet de la fitra et de cette foi intime. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et attention, je défends deux causes. Je défends les femmes qui ne le mettent pas et je défends les femmes qui le mettent. Parce que pour moi, ce n'est pas un sujet.
Et qui le mettent librement, sans coercition, etc.
Bien sûr, je pars que de ce principe-là parce que...
À supposer qu'il y ait une réelle liberté à vouloir le mettre aussi, mais ça c'est un autre débat.
Oui, mais je parle bien sûr des femmes qui le mettent librement parce que celles qui ne le mettent pas librement, ça n'est pas l'islam pour moi de toute manière. Parce que l'islam, quand on lit le Coran, on comprend que c'est un cheminement personnel. Hein. Il y a un verset qui m'a bouleversée. Je me permets de le partager avec mes mots, hein. ce ne sont pas des traductions, je me permets. C'est que le jour du jugement dernier, les émotions, j'aime pas dire la peur parce que c'est pas la peur, mais les émotions seront tellement fortes qu'on ne se souviendra même pas de nos enfants. Et ce verset n'a pas pour but pour moi d'effrayer.
Ni du compagnon de sa compagne, ni des parents de leurs enfants.
Je ne parle même pas d'eux, parce que pour moi, ma fille, c'est une responsabilité. Un enfant, elle ne m'appartient pas, c'est un être humain, mais c'est ma responsabilité. Mais je me souviens avoir lu ce verset et regarder ma fille qui était en train de lire à côté de moi et de me dire, c'est pas possible.
Oui, mais parfois le discours coranique est métaphorique, symbolique, anagogique, comme on dit, symbolique aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que ça doit frapper l'entendement du peuple récipiendaire qui se trouve être au 7e siècle.
Exactement, je suis totalement d'accord avec vous.
Vous avez parlé de théologie et une des définitions de la théologie, outre le fait de tenir un discours sur le divin et sur le religieux, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Donc quand on est au 21e siècle, ce n'est pas pareil que lorsqu'on est au 7e siècle. Donc je vous en prie, peut-être comme le temps passe, il y a un volet concernant le mariage, la vie en commun, la vie en société. La foi est déterminante pour consolider tout cela.
Alors moi j'ai voulu en parler parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai divorcé, donc j'ai eu ma fille,
mari,
exactement. Et j'ai eu cette analyse très humaine, hein, pour le coup, pas spirituelle, mais très humaine, de me dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je ne veux plus vivre. Et il s'avère que mon cheminement spirituel a commencé à la fin de mon mariage. C'est peut-être une des choses aussi, l'être humain change et puis on ne peut pas obliger les autres à changer. C'est peut-être ce qui m'a éloignée aussi. Mais je me suis rendu compte d'une chose en me remariant, hein, donc ça fait 4 ans que je suis mariée, que ce qui me soudait à mon mari, c'était la foi. Et je me suis rendu compte que quand on vit des épreuves du quotidien, hein, la vie de couple, c'est pas quelque chose, c'est comme la foi, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui vacille énormément aussi.
est-elle un long fleuve tranquille ? Ah,
absolument pas. Plutôt un océan agité.
Mais il y a la longue complicité du temps aussi, et puis la tendresse.
Et puis la foi, justement.
D'accord.
C'est quelque chose qui m'a permis de faire confiance à l'homme. C'est l'homme avec un grand H, mais l'homme qui m'accompagne aussi dans mon quotidien. Le fait de, par des actes, on dit toujours, l'amour, c'est pas que des paroles, c'est aussi des actes.
Mais vous aviez dit tout à fait au début qu'il n'est, enfin, il y a l'intention, et je pense à ce hadith qui dit « il n'est d'actes que par les intentions qui les sous-tendent ».
c'est vrai, mais, non, mais je pense que...
Je vous taquine.
Oui, je pense que... Il y a l'intention qu'on met dans les actes, mais il y a les actes aussi qui sont le résultat de nos intentions. C'est-à-dire que si on a une intention de partager quelque chose, il faut agir pour le partager. Donc l'acte et l'intention sont quelque chose de très lié. Et je parle, c'est un très court chapitre du livre, mais je parle du mariage parce que aujourd'hui, c'est ce qui a rendu mon fleuve plus tranquille en tout cas. C'est de partager la foi avec mon mari, de prier.
L'amour conjugal et les scènes de la vie conjugale, ça me fait rappeler un film suédois. Cet amour conjugal est participatif de l'amour divin ou inversement, en tout cas, le fait que vous deux avez cette foi en Dieu dans un amour oblatif, transnaturel, puissant, incandescent, total, vous aviez dit vous-même, ça aide à consolider votre amour conjugal.
Pour moi, l'amour total, je parle de l'amour de Dieu, oui. Bien sûr, hein. Pas de mon mari, même si je l'aime énormément. L'amour total, c'est Dieu. Et...
J'ai noté le même si. Hein.
Je l'aime, attention, quand même. Mais,
Et le quand même, alors.
Je retire juste le total.
Bon.
Mais là, en fait, à travers l'amour total de Dieu qui a mis sur ma route mon mari et à travers nos actes de foi ensemble, il y a cette harmonie qui naît, en fait. Et je pense que on ne peut pas dissocier l'amour d'une personne, d'un être humain de notre entourage, de l'amour divin. Ça, c'est le total.
Entendu. Alors, il y a aussi tout un chapitre concernant le pardon. Et le pardon est fondamental, à la fois dans votre vie, dans votre expérience de vie, mais même d'une manière générale. C'est cette idée qu'il faut savoir assainir l'âme de l'animosité infâme. C'est le fait de purifier le cœur de toutes les rancœurs.
Le pardon, c'est quelque chose, c'est une pratique pour moi.
D'accord.
Aussi. Vous savez...
Parce que c'est toujours facile d'en discourir que de le vivre.
Bien sûr, et c'est justement ce que je voulais dire, c'est que c'est facile de dire « il faut pardonner ». Mais ça signifie quoi, il faut pardonner? On revient sur cette notion d'intention, de la niya. Dire « je te pardonne » et ressentir de la rancœur, est-ce que c'est pardonner finalement? Par contre, avoir l'intention de pardonner une personne, c'est un travail pour y parvenir. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en faisant ce travail et en y parvenant, on se libère. Donc, le pardon, c'est un cadeau qu'on fait à soi-même. C'est pas un cadeau qu'on fait aux autres. Et c'est quelque chose qui se réflexionne, qui se pratique. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Et aujourd'hui, je ressens profondément que quand quelque chose se passe, le fait de ramener la personne à sa condition humaine et au fait de commettre des péchés ou de ne pas avoir la même vision... ou de se dire peut-être que cette personne n'avait pas une mauvaise intention, et si elle l'avait, pourquoi lui laisser de la place dans mon cœur ? Parce que rancœur, ça renvoie aussi à cette notion de laisser une place. Je préfère laisser cette place pour quelque chose de positif. Mais je dis aussi dans le livre, ça n'est pas toujours facile, et parfois il faut du temps, et il faut accepter qu'on ne soit pas prêt à pardonner quelque chose. Parce que sinon, on n'est pas en accord avec nos intentions. Si on veut se forcer à pardonner quelqu'un alors qu'on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on n'a pas mis l'intention et qu'on se fait croire qu'on a pardonné. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se cultive. Et à nouveau, avec les pratiques religieuses, le fait de pratiquer l'amour divin, l'amour total, ce sont toutes, pour moi, toutes des petites choses qui nous font parvenir à pardonner et à se libérer.
Et iriez-vous jusqu'à ce que d'aucuns, le mot n'est pas de moi, jusqu'à la folie du Christ qui consiste à aimer les ennemis ?
Je n'irai pas jusque-là. Non, je pense... Alors, je parle de nouveau, hein, on est dans une émission de témoignage, je le ressouligne parce que vous avez l'habitude d'inviter des experts. Hein. Moi, ici, je parle vraiment d'un témoignage. Je pense qu'on a tellement de choses à apprendre, à pratiquer, à cultiver, que l'amour, c'est quelque chose qui se pratique et se cultive. Alors, au lieu de pratiquer et cultiver l'amour d'un ennemi, je pense qu'on ferait mieux de cultiver et de pratiquer l'amour pour nous-mêmes, pour Dieu, et de nous concentrer sur notre spiritualité, notre cheminement.
Alors, que feriez-vous de ce verset coranique qu'il ne faut jamais extraire hors contexte, qui dit en substance... Et quelle meilleure parole que de se dire « je m'en remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair, rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. »
Waouh. Je pense que, comme quand on éduque nos enfants, on essaye de leur faire parvenir que si quelqu'un fait du mal, essaye de t'en éloigner, de ne pas en tenir compte, etc. Mais voilà, on a toujours cette notion de justice qu'on ressent dans le Coran. Et comme vous dites, il ne faut pas extraire les versets de leur contexte. Il y a toujours cette notion qu'on a le droit de se rendre justice. Alors, avec un cadre légal, on vit en société, hein, comme vous le dites, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais quoi de mieux que de parvenir à laisser de côté quelqu'un qui nous a fait du mal et d'avancer sur notre propre trajectoire, de pouvoir s'en éloigner? Je pense que le sens du verset, c'est de dire, bien sûr, on a le droit de se rendre justice, comme on a le droit de porter plainte quand il nous arrive, un voisin nous a fait quelque chose, etc. Mais on a aussi le droit de dire, je laisse tomber et j'avance. Et je pense que métaphoriquement, dans mon exemple, c'est à peu près ça. Moi, j'ai choisi de ne pas revenir sur des choses du passé, mais d'avancer, parce que j'ai un tel travail que jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je n'aurai pas assez pour cheminer spirituellement.
Bien. Alors, cher Soundous Moustalhim, j'avais encore d'autres questions à vous poser, notamment sur la gratitude, la reconnaissance, mais nous n'avons plus le temps. Soit nous trouverons une autre occasion pour que vous veniez nous parler davantage, soit nous allons nous contenter de cela, tout en vous remerciant d'être venu nous parler, nous livrer ce que vous avez dans votre cœur et pour parler de votre cheminement de foi. Et chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam que vous retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet et la réalisation est assumée par Daphné Leblond.
Coucou Sorette, je voulais juste te dire que je sais que tu es submergée par tes émotions avec tout ce qui t'arrive, mais n'oublie pas qu'on est là, qu'on t'aime. C'est pas banal, c'est vrai, mais c'est ça qui va te faire changer le monde. Donc t'inquiète pas, ça va aller. Bisous, je t'aime.
C'est quoi être hypersensible? Ben, tu vois là, je t'écoute parler, mais j'écoute pas que tes mots. J'écoute l'intonation de ta voix. J'analyse le mot que tu as utilisé, les expressions de ton visage, les mouvements de ton corps. J'écoute même tes silences. J'écoute ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Je capte ton énergie pour aligner la mienne. Parce que
je suis pas banale, c'est vrai. J'aime quand je pleure de joie. J'aime quand je ris aux larmes. J'aime quand mon cœur est par où se noie. Je suis pas banale, c'est vrai. J'aime quand je lis en toi. J'aime quand tu me désarmes. Je suis sûre que le monde a besoin de ça.
Puis-je perçois tes émotions et je les absorbe. Ensuite, je ferai n'importe quoi pour t'aider. Car si ça te touche, ça me dévaste. Si tu souffres, j'agonise. Si tu pleures, je meurs. Si tu ris, je pleure. Je pleure de joie. La moindre petite chose peut devenir une agression. Un bruit répétitif, une lumière trop forte. Non, je suis pas susceptible. Je suis juste comme ça. Hyper joyeuse, hyper amoureuse. Hyper active, hyper anxieuse. Hyper tout, mais aussi hyper son contraire.
Je suis pas banale, c'est vrai. J'aime quand je pleure de joie. J'aime quand je ris aux larmes. J'aime quand mon cœur est pas au sol. Je suis pas banale, c'est vrai. J'aime quand je lis en toi. J'aime quand tu me désarmes. Je suis sûre que le monde a besoin de ça.
C'est un peu comme des montagnes russes. J'ai l'impression qu'une vie entière, c'est pas assez, mais en même temps, je me sens submergée par une journée. Je veux faire le tour du monde en sac à dos, mais en même temps, attendre la mort assise dans mon fauteuil, parce qu'à quoi bon si tout s'arrête au final? Je veux voir personne, mais pas être seule. Je te fais fuir, mais je souffre de devoir partir. C'est fatigant d'être hyper. Ou plutôt, c'est hyper fatigant d'être.
Je suis pas banale, c'est vrai. J'aime quand je pleure de joie. J'aime quand je ris en larmes. J'aime quand mon cœur est pas au sol. Je suis pas banale, c'est vrai. J'aime quand je ris en toi. J'aime quand tu me désarmes. Je suis sûr que le monde a besoin de toi. Je suis sûr que le monde a besoin.